Vous avez annoncé trois grands témoins et ces trois grands témoins, je vais les inviter maintenant à me rejoindre. Agathe qui arrive du fond de la salle, Agathe Nathanson, Marielle, Julien Mouquet et Pierre-Nicolas Marques. Eh bien, installez-vous, voilà, à côté de moi, très bien. Gardez une petite place pour Agathe qui va nous rejoindre. Ouf. Agathe, vous cumulez les casquettes, vous êtes actrice, bien sûr, vous êtes l'épouse de Jean-Pierre Marielle. Et vous avez été son aidante puisqu'il a eu la maladie d'Alzheimer. Vous étiez venue en parler déjà lors d'entretiens Alzheimer et vous avez cette façon tout à fait limpide, crue et pleine d'attention pour raconter la vie difficile d'aidante. Je pense que ce que nous a raconté Olivier de la Doucette tout à l'heure a fait écho à ce que vous avez vécu. Et puis, vous venez de publier un livre dont on parle beaucoup, qui s'appelle « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle » aux éditions du Seuil. Vous êtes aussi membre du comité d'organisation de la Fondation Recherche Alzheimer, très investi sur cette maladie. Il a fallu tout ce temps pour écrire ce livre, pour sortir de la colère, de l'épuisement, peut-être
D'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour écrire le livre. En revanche, il a fallu et il faut encore beaucoup de temps pour sortir de cet état que le docteur de la Doucette a très, très bien décrit, cet état d'effondrement de l'aidant. Parce qu'effectivement, je pense que Jean-Pierre est parti il y a maintenant 5 ans et je suis encore dans cet état de fragilité et de séquelles de ce que j'ai vécu en tant qu'aidante. Donc tout ce qu'a dit Olivier tout à l'heure a été effectivement vécu par moi et est vécu au quotidien par tous les aidants. Donc c'est d'une certaine façon, je suis assez bouleversée d'avoir écouté ce que Olivier nous a dit parce que ça reste très très profondément marqué en moi et je pense qu'il faut que vous sachiez, si vous êtes aidant, qu'il faut effectivement écouter ce qu'a dit le docteur de la Doucette, c'est-à-dire qu'il faut, moi je ne l'ai pas fait, mais il faut aussi penser à soi et si on pense un peu à soi, on peut aller plus loin dans le rôle d'aidant.
Vous êtes resté beaucoup effectivement en tête à tête avec lui et pourtant ici et là vous écriviez déjà des petits mots. Est-ce que ça libère l'écriture? Est-ce que ça vous a aidé tout au long de ces années?
Oui, pour moi l'écriture était une aide parce que j'aime écrire des lettres surtout, donc j'aime écrire ce que je ressens et effectivement moi j'avais fait, mais c'était parce que Jean-Pierre était quelqu'un de connu, donc c'était aussi difficile d'accepter cette maladie par rapport à son statut, donc nous nous sommes isolés, je l'ai isolée, je me suis isolée volontairement parce que je ne voulais en aucun cas qu'on voit hélas, la dégradation que la maladie provoque sur le malade. Et je ne voulais pas qu'on voit Jean-Pierre diminuer. C'était peut-être une erreur, mais je pense que, vu ce qu'était Jean-Pierre, sa pudeur, sa discrétion, je pense que c'était nécessaire d'avoir fait ça. Je ne le regrette pas, mais je pense que ça n'a pas aidé non plus le rôle d'aidant. Lui, ça n'a rien changé pour lui, sauf qu'il a été très, très préservé. Et pour moi, ça ne m'a pas aidé du tout parce que je me suis isolée. Et j'ai eu aussi ce qui, à mon avis, est une mauvaise réaction et qui est vilaine. J'avais honte. Et je sais que d'autres personnes ont honte parfois du comportement du malade. Et ce comportement échappe complètement au malade, mais à nous qui sommes en pleine conscience de ce qui se passe, c'est aussi très très dur à vivre.
Et votre message pour les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui et qui sont dans le tumulte de la maladie, qui sont aidantes, qu'ils soient professionnels ou familiaux, ce serait quoi?
Alors s'ils sont familiaux, je dirais qu'il n'y a qu'un mot qui résume tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre avec un malade, c'est le mot amour, vraiment. Je pense qu'il faut être porté par l'amour, beaucoup, pour jouer ce rôle d'aidant.
et se faire aider, bien sûr, comme vous le pointiez tout à l'heure, ne pas s'épuiser tout seul dans son coin, parce que l'amour, ce n'est pas forcément s'asphyxier.
Non, il faut essayer effectivement de ne pas s'épuiser tout seul, de savoir qu'on peut déléguer, que le malade n'est pas malheureux si on délègue à la bonne personne, évidemment, et puis sortir un peu, je ne sais pas, voir un bouquet de fleurs, voir un champ, voir la Seine si on est à Paris, marcher dans Paris, aller dans les beaux endroits, essayer de se remplir un peu de beauté, ce qui peut aussi alléger un peu cette peine immense que provoque cette maladie. Le docteur de la Doucette disait que c'est une maladie de la famille. Oui, c'est une maladie de la famille, vraiment. Et je me demande maintenant, avec le recul, si les plus malheureux, les plus touchés, les plus bouleversés et ceux qui souffrent le plus ne sont pas les aidants.
Vous connaissez particulièrement bien votre voisin, Julien Mouquet. Vous pouvez prendre le micro. Vous venez de vivre ensemble une belle aventure. Julien Mouquet, vous êtes scénariste, réalisateur. Vous venez de boucler un court-métrage de 20 minutes qui s'appelle « L'hypermnésique ». Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Vous êtes tout jeune et vous avez eu envie de vous consacrer et de consacrer votre énergie à l'hypermnésie, donc les troubles de la mémoire.
Oui, c'est une longue histoire. Je pense que c'est plein de petites expériences personnelles qui m'ont mené à écrire cette histoire. Et ma rencontre avec Agathe aussi, qui a beaucoup inspiré le personnage, puisqu'elle interprète le rôle principal du film, qui est une aimante, comme tu aimes les appeler, qui s'occupe de son mari. Et moi aussi, j'ai été touché, non pas par la maladie d'Alzheimer, mais j'ai mon grand-père aussi, qui avait des gros problèmes de mémoire en fin de vie. Et même si la plupart du temps, c'était très compliqué à gérer, et pour lui et pour la famille aussi, comme c'est expliqué précédemment. Il y avait quelquefois des petits moments intéressants, comme des moments de lumière, qui étaient assez mystérieux, qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer. Et j'avais un peu envie d'exploiter ça à travers une histoire, donc une situation un peu compliquée à gérer, triste, et essayer de trouver dans cet enfer, en fait, parce que c'est très compliqué, les petits moments de joie, les petits moments simples qui peuvent nous apporter encore un peu de bonheur dans ces moments compliqués.
Quand on a préparé votre intervention, vous m'avez dit que les petites choses apportent beaucoup de réconfort et d'étoiles dans les yeux. Et c'est ça que vous avez voulu dire dans votre film. Un tournage qui vous a replongé vraiment dans une histoire.
Oui, ça, d'abord j'ai été très très touchée qu'un si jeune garçon, parce que Julien est très jeune, s'attaque à ce genre de sujet très lourd, très douloureux quand même, mais il l'a fait avec une légèreté, et ce tournage que nous avons fait à Londres a été un moment de grâce, parce qu'il était entouré uniquement de très jeunes gens qui étaient les techniciens sur ce tournage, et que le comédien Bernard Farcy avait quelque chose qui ressemblait terriblement à Jean-Pierre dans la silhouette, dans la forme du crâne, quand il était de dos à moi, et c'était extrêmement touchant. Voilà, je veux dire aussi que Julien a été récompensé à Cannes pour ce court-métrage. Il a eu un prix du metteur en scène, je crois, un prix du scénario, et que Bernard Farcy a eu le prix du meilleur comédien.
Meilleur acteur.
Voilà. Donc, je voulais le signaler parce que je suis très contente pour lui.
Et aussi que ce court-métrage pourrait bien devenir un long-métrage.
Oui, alors ça, c'est un projet qui a encore un peu de chemin à faire, mais oui, ce serait l'idée. C'était vraiment une super expérience, c'était partagé par toute l'équipe d'ailleurs. Ce qu'a dit est très vrai. Nous, on avait beaucoup de chance en tant que jeunes de travailler avec des gens comme Agathe et Bernard, c'était super. Et ça a juste donné envie de pousser l'idée parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Vous voyez, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, on pourrait parler des aidants, on pourrait parler des gens malades, on pourrait parler de tellement de choses. Et justement, ce film se concentre plus sur le personnage d'Agathe, qui est une aidante, que sur le personnage de Joe. Et on se sent plus sur l'impact que ça a sur sa vie. Et en fait, il y aurait tellement de choses à raconter qu'on a vraiment envie d'en faire un long métrage. Avec cette même légèreté, le but, c'est pas de nous plomber, mais justement de nous apporter, d'avoir une image très réaliste de ce qui se passe, mais d'en faire ressortir les bons côtés que parfois on oublie de voir. Et c'est important, à un moment difficile, de justement refaire sortir ces petites choses qui peuvent nous aider à survivre et à continuer.
car il y a encore des pépites malgré la maladie. C'est vraiment quelque chose qu'Olivier de la Doucette m'avait dit un jour et ça m'avait marqué. La maladie, la vie, elle continue en fait. Il n'y a pas, on vous annonce que vous avez une maladie d'Alzheimer ou que votre proche a une maladie d'Alzheimer et puis c'est fini. Non, il va encore y avoir des beaux moments. Il va encore y avoir ces éclats dans les yeux comme on vient de le voir et vous avez réussi à le mettre en avant avec beaucoup de douceur. C'était un parti pris.
Oui, totalement. J'avais vraiment envie. Si vous regardez le film dans sa totalité, vous allez voir que le début est assez lourd, assez dramatique. Et puis, en fait, on part de cette position pour essayer de remonter à la surface. En fait, ce que veut dire l'hypermnésique, c'est l'inverse d'amnésique. C'est-à-dire que c'est la faculté de se souvenir de certaines choses avec beaucoup de détails. Et je voulais justement prendre le contre-pied de ça pour montrer que même les gens atteints de la maladie ou les gens qui sont en perte de mémoire, ou les aidants qui souffrent de cette situation, parfois, ils peuvent aussi remonter à la surface et avoir des éclairs de bonheur, de lumière. Et même le personnage d'Agathe en apprend quelque chose après cette scène. Elle apprend, elle aussi, à apprécier les petites choses de la vie, les bons souvenirs, aussi simples et authentiques soient-ils.
Ça remet les compteurs à zéro. Donc c'est un film, un court-métrage qui passe actuellement dans les festivals. Donc si vous avez l'occasion, eh bien, n'hésitez pas à aller le voir. On va passer maintenant à l'écriture. Et peut-être vous pouvez passer votre micro, voilà, avec vous, Pierre-Nicolas Marquez. Alors, on est carrément dans autre chose là. Vous êtes un ex-coureur, mais toujours cycliste, et vous venez d'écrire Mémoire en roue libre, une aventure pas banale. Pendant 8 jours à vélo, vous avez traversé les Pyrénées au profit de la Fondation pour la recherche Alzheimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure?
Alors, je me suis retrouvé dans cette aventure grâce à mon ami Jacques Darigaud, qui est à l'initiative de ce voyage, qui est un personnage central du livre, qui en mai 2021 me propose de me joindre à lui pour rallier Perpignan à Biarritz afin de lever des fonds pour la fondation Recherche Alzheimer. Donc j'ai tout de suite accepté.
Et votre livre raconte jour après jour la difficile traversée des Pyrénées, parce que ça monte, ça descend, il y a des moments où on souffre beaucoup, il y a des moments où on n'en peut plus et c'est les petits camarades du peloton qui viennent vous pousser un petit peu pour vous donner un coup de pouce et vous faire avancer et vous faire monter jusqu'au col suivant. C'est un peu la vie avec un malade Alzheimer que vous racontez par métaphore. Pas facile, mais on continue à avancer.
Alors effectivement, on peut le prendre comme ça. Moi, ce que j'ai voulu surtout démontrer dans ce livre, c'est que tout passe, que rien ne dure, le bonheur comme le malheur, que la situation dans laquelle je me trouvais juste au départ de cette aventure, c'était une situation qui m'était personnelle. Et la Fondation Recherche Alzheimer a été un excellent prétexte pour moi de pouvoir prendre la route. Et ensuite, j'ai voulu établir justement ce lien entre la vie et le cyclisme.
Il est aussi question de votre grand-mère, parce que c'est elle qui vous a donné l'amour du vélo.
Tout à fait. Ma grand-mère maternelle qui me gardait durant les longues et ennuyeuses après-midi de juillet, qui un jour me fait découvrir le Tour de France et le cyclisme.
Vous parlez dedans vélo, poésie, des mots que vous m'avez racontés. Hein, vélo, poésie, écriture, dépassement de soi. Tout ça, on le retrouve dans votre livre, dans votre récit.
Oui, c'est comme je le disais, le vélo m'a permis de faire ce voyage. La cause en a été l'Alzheimer. L'écriture, j'ai commencé par écrire de la poésie. Et je trouve justement que dans la notion de voyage, dans la notion de souvenir, le vélo, tout ça, ce sont des choses qu'on peut tout à fait marier au cours d'un livre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et puis dans votre récit, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que quand vous vous arrêtez, quand vous êtes à des haltes, vous n'êtes pas toujours bien accueilli, mais quand vous expliquez que vous pédalez au profit de la Fondation Recherche Alzheimer, tout à coup, on a l'impression que les gens s'ouvrent, se posent, vous encouragent. Vous avez senti ces encouragements tout au long du périple ?
Oui, tout à fait, mais comme on en a parlé depuis le début de cet entretien Alzheimer, beaucoup de gens sont concernés, que ce soit les aidants, les familles, les malades. Sur chaque rencontre que j'ai pu faire durant ce voyage ou même lors des rencontres littéraires que j'ai faites jusqu'à maintenant, il y a toujours une personne qui vient me voir et qui me dit justement je suis concerné par cette maladie de près ou de loin. Donc effectivement, ça, tout de suite, ça rassemble les gens.
Quand on a 28 ans comme vous, on se sent concerné par la maladie ?
Évidemment, parce que moi aussi, un jour, je vais vieillir et puis je ne suis pas à l'abri de cette maladie. Et puis, comme on l'a déjà vu, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi de plus en plus de jeunes. Et puis, faire du sport, ça éloigne cette maladie. C'est un peu le message de ce livre.
La mémoire est une voûte céleste, alors la perdre, non.
C'est comme ça que je termine le livre, effectivement. Oui, c'est sacré la mémoire. C'est ce qui permet de se souvenir de ce que l'on a vécu, des moments de nos vies, des gens qui nous ont entourés, des personnes que l'on a aimées, se souvenir également de soi-même. Puis la mémoire, c'est un petit peu tout ce qui reste de nous dans la mémoire de ceux qui restent également. C'est sacré, oui.
Une aventure pas banale, je le disais, mémoire en roue libre. Alors ça, ce sont des livres, le vôtre Agathe, le vôtre Pierre-Nicolas, qui seront disponibles quand on va quitter cette salle. On pourra se le faire dédicacer, puisque vous serez derrière le stand qui abrite vos deux ouvrages. Un grand merci à vous pour toute votre mobilisation au profit de la maladie Alzheimer et pour l'espoir que vous apportez aussi, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie dans vos témoignages, et ça, c'est vraiment précieux.
Est-ce que je peux dire juste une petite chose ? Alors, en fait, c'est pas de moi, mais juste un poème qui, à mon avis, résume vraiment très, très, très bien ce que peut-être vous vivez et surtout que ce que vos conjoints ou parents vivent. Alors, je trouve que ce poème est très juste et résume complètement toute la maladie d'Alzheimer. N'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Je suis triste, malade et perdue. Ne perds pas patience avec moi. Je n'y peux rien de ce qui m'arrive. Rappelle-toi que j'ai besoin de toi, que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas. Reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie.